Madame Julien, en parcourant le XVIIIe siècle, nous en arrivons à 1789, et donc à la Révolution. Quelle musique avez-vous choisie pour illustrer cette période?
On ne peut pas traverser le XVIIIe siècle sans penser à Haydn, qui naquit en Autriche en 1732. On a pu parler à propos de Haydn de la musique du bonheur, car son œuvre est faite de sérénité et d'optimisme. Mais à l'époque qui nous occupe, Haydn se laisse gagner pour un temps par le goût romantique qui devient à la mode en Allemagne, et il écrit entre autres cette symphonie des adieux au ton assez sombre dont nous écouterons le début. Ce premier mouvement, dans sa rigueur classique, a des accents de violence et d'âpreté, presque dramatiques. Et ce caractère m'a paru convenir assez bien au climat de notre cité en ces jours prometteurs de troubles. Donc, symphonie numéro 45 en fa dièse mineure de Joseph Haydn, dite symphonie des adieux, premier mouvement.
Monsieur Julien, depuis plusieurs semaines, vous nous avez montré que le XVIIIe siècle apporte un esprit nouveau. Et cet esprit nouveau va finalement aboutir à la Révolution.
Oui. Et nous allons parler de la Révolution. Évoquer la Révolution de 1789 est chose extrêmement hasardeuse et en tout cas malaisée, même après deux siècles, parce que cet événement majeur de notre histoire soulève encore beaucoup de passions. 1789 est une date repère dans l'histoire de France, la date clé de l'époque contemporaine, la seule sans doute qu'une majorité de Français, y compris les jeunes, gardent en mémoire et peuvent traduire en un événement précis. 1789 marque la fin de l'Ancien Régime par l'accès au pouvoir politique d'une nouvelle classe sociale, la bourgeoisie, régime sous lequel nous vivons encore. En ce début d'année 1789, nos ancêtres saint-antoninois ne se doutaient évidemment pas qu'ils allaient vivre un moment historique. Seul, le recul du temps permet a posteriori d'attribuer à tel ou tel événement une importance capitale. La situation locale ne permettait d'ailleurs pas de se soustraire à ce qu'on appelle les contingences immédiates qui préoccupaient les consuls au tout début de cette année, ainsi qu'en témoigne le procès-verbal du Conseil de ville tenu le 6 janvier 1789. Ce jour-là, l'Assemblée est plus nombreuse que de coutume. 22 personnes assistent au Conseil. Depuis une dizaine d'années, ces réunions étaient très peu suivies. Le système de cooptation systématique des consuls qui maintenait aux postes principaux de maire et de lieutenant de maire toujours les mêmes personnes, avait fait que les réunions du Conseil n'intéressaient plus personne. C'est que, si cette assemblée est nombreuse, ce 6 janvier 1789, c'est que la situation est grave. Ainsi l'a décrit le maire, le médecin Guillaume Lacombe. Écoutons sa harangue. Après une des plus maudites récoltes de blé, événement malheureux qui nous a été commun avec presque toutes les communautés de la province, nous avons eu la douleur de voir détruire le 10 août dernier nos récoltes de millet, de chanvre, de vin et de tous autres fruits par une grêle affreuse. Nous fûmes témoins des gémissements d'un peuple désespéré de perdre, dans un moment, toutes ses ressources. Le malheur n'était pas encore à son comble. les orages désastreux des premiers jours de septembre vinrent l'y mettre en entraînant les terres de nos coteaux, en creusant des précipices, en renversant les murs, en comblant nos vallons de pierres et de sable, et enfin en causant des dommages inappréciables et à jamais irréparables. Nos yeux ne peuvent encore s'accoutumer à ce triste spectacle, mais notre bien plus frappant spectacle qui en est la suite et que nous n'avions pas pressenti vient aujourd'hui nous affecter bien plus vivement. C'est la misère, si généralement répandue. C'est l'humanité souffrante. Oui, messieurs, le nombre de pauvres mendiants s'est infiniment accru. Il est encore d'autres nécessiteux qui n'ont jamais demandé d'aumône, possesseurs d'un petit bien, qui ne trouvent ni à emprunter, ni à vendre pour subsister. De ce texte, me semble-t-il, est superflu. En ce terrible hiver 1788-1789 qu'a retenu l'histoire, ici comme ailleurs en France, c'est la pauvreté, la misère, la famine. Le peuple, je veux dire le bas peuple, manque de pain. Cependant que les caisses du trésor royal sont vides, on comprend mieux. À la lecture de ce texte, l'insurrection parisienne des 5 et 6 octobre 1789, qui vit le peuple aller à Versailles pour ramener à Paris le roi et sa famille, le boulanger, la boulangère et le petit Mitron, comme vous savez.
Oui, monsieur Julien, vous nous avez montré le XVIIIe siècle comme une période assez heureuse, mais assez heureuse pour la haute société. Et on comprend que si une minorité s'octroie toutes les richesses, la majorité de la population devient misérable.
Oui, c'est une loi naturelle. Oui.
Et comment explique-t-on que les caisses de l'État, les caisses du roi sont vides ?
Elles le sont depuis très longtemps en raison du déficit du trésor royal qui a commencé de se creuser de façon considérable sous le Louis XIV, ou du moins à la fin du règne de Louis XIV, à cause des guerres incessantes que Louis XIV a menées. On sait que la guerre est une source de déficit incomparable. Après ensuite, nous avons connu sous la régence, sous Louis XV mineur et sous la régence de Philippe d'Orléans, le fameux système financier de l'AF, ou de l'OF, je ne sais pas comment on prononce, excusez-moi, hein, dont on connaît la fameuse banqueroute. Ensuite, on a vu le roi vendre des quantités d'office pour se procurer de l'argent, essayer de combler le déficit, mais enfin, de compte, en dépit de tous les conseils donnés par les économistes et les hommes politiques avisés, comme Turgot, comme Necre, qui demandaient qu'on répartisse plus équitablement les impôts et en particulier qu'on supprime cet avantage considérable des nobles et du haut clergé qui ne payaient pas de taille, qui ne payaient pas d'impôts, de les faire contribuer au budget de l'État. On s'est heurté à la résistance de ces ordres privilégiés et un jour est arrivé où le trésor royal était dans un déficit tel qu'il a fallu réunir les États généraux. De quoi qu'il en soit, à Saint-Antonin comme ailleurs, en 1789, le peuple a faim et commence de murmurer. Et les consuls le savent, qui décident d'affecter un reliquat d'imposition de 3730 livres, qui restaient les impositions de l'année précédente, qui n'avaient pas eu d'emploi, pour une partie, soit 2000 livres, s'ajoutant à un don du roi de 1000 livres pour la subsistance des pauvres de cette ville et de la campagne, qui comprenait des femmes, des vieillards, des invalides, des infirmes, des enfants, par centaines. Une autre partie, 1730 livres, 17 sous, un denier, nous dit le procès-verbal, pour créer des sortes de chantiers qu'on appellera plus tard des ateliers de charité, chargés de procurer de travail aux nécessiteux valides, ceux qui n'ont pas d'argent, mais qui quand même demandent du travail, en les faisant travailler sur les chemins et avenues de la ville. Parmi les signataires de cette importante délibération, on trouve le comte de Lastic Saint-Jal. Alors qu'il n'est pas conseiller de ville, qu'il n'est pas consul, qu'il n'est pas maire, il est là parce qu'il est venu annoncer, lui, qu'il avait obtenu ce fameux don dont j'ai parlé du roi de 1000 livres, qui avait été accordé par l'assemblée de Haute-Guyenne, siégeant à Villefranche, assemblée dont il est membre et qui se préoccupait justement de ces problèmes de la province. Et l'on comprend, dans ces conditions, que l'on ne parle pas ici de la grande affaire du moment qui agite alors toute la classe politique, celle qui est à l'abri du besoin. Je veux parler de la convocation des États généraux décidée par le roi au mois de janvier 1789, décidée en désespoir de cause pour combler le déficit du trésor royal. On n'en parle pas. Mais quand même, il faut bien exécuter les ordres. Ces ordres prescrivent la tenue d'assemblée pour la désignation des députés aux États généraux. Cette assemblée, qui se doit se tenir en principe dans toutes les communautés, dans toutes les paroisses, ne concernait pour nous, ici à Saint-Antonin, que les membres du tiers-État. On sait que la nation comprenait alors 3 ordres. L'ordre de la noblesse, l'ordre du clergé, appelé encore ordre privilégié, et l'ordre du tiers-État, le plus nombreux, bien sûr, puisqu'il est rassemblé toute la population qui n'était pas les 2 autres. Ces ordres désignaient séparément leurs délégués, qui se rendaient ensuite au siège de la province, et ces délégués élisaient au siège de la province, c'est-à-dire à Villefranche, élisaient alors les députés aux États généraux.
Oui, pourquoi les élections à Saint-Antonin ne concernent pas la noblesse et le clergé?
Bon, parce qu'il y a très peu de nobles et que cela se passait, je pense, d'une façon beaucoup plus étendue. C'est-à-dire que le comte de Lastic, par exemple, qui sera délégué de la noblesse à l'Assemblée de Villefranche, a dû être désigné par ses pairs de la noblesse de l'élection de Villefranche, que de même les représentants du clergé de Saint-Antonin, qui seront le prieur mage et le supérieur des Carmes, seront désignés par le clergé de l'élection, n'est-ce pas? Ça se passe plus par communauté à ce moment-là, ça se passe plutôt par région. C'est le 12 mars 1789 que se réunit à Saint-Antonin l'assemblée primaire chargée d'élire les délégués qui seront envoyés à Villefranche et de rédiger, ce qui est très important, hein, mais qui est habituel dans les assemblées de cette sorte qui se tenaient autrefois, de rédiger un cahier de doléances, le cahier de doléances de notre communauté. C'est le premier acte, celui-là, cette élection des délégués et la rédaction du cahier de doléances, qui engage notre commune dans la période révolutionnaire. Vous voyez que c'est pas très méchant, c'est pas violent. C'est se réunir et écrire un cahier. Cette assemblée se réunit sous la présidence du maire Lacombe, du lieutenant de maire Perret et des 2 consuls. Là se trouvent assemblés les représentants des différentes corporations, corps et communautés de cette ville ou des bourgeois et habitants, élus par leurs pairs les 8, 9, 10 et 11 mars précédents. Vous voyez, parce que pendant toute la semaine précédente, on a passé le temps à désigner dans chaque corporation, chaque corps de métier, chaque classe sociale, les représentants. conformément à cela à l'ordonnance royale, évidemment, qui a été signifiée par le juge-image de Villefranche. Au total, se réunissent ainsi 46 représentants, dont l'énumération nous donne un tableau de la société saint-antoninoise à la fin de l'Ancien Régime, et en même temps, des activités économiques de notre ville et de notre commune, des plus distingués jusqu'aux plus humbles. On trouve d'abord l'élite, bien sûr, si l'on peut dire, celle qui depuis des années détient le pouvoir dans cette ville et qui a droit, elle, pour chacun de ses métiers, métiers entre guillemets, à deux représentants au lieu d'un seul pour les autres. C'est ainsi que l'ordre des avocats est représenté par deux personnes, celui des notaires et procureurs aussi, celui des bourgeois aussi. Bourgeois, ça n'a pas de métier, n'est-ce pas? Enfin, ils ont deux représentants. Chirurgiens et apothicaires, aussi deux. Marchands et négociants, aussi deux. Les orfèvres, à eux tout seuls, deux. Et enfin, les pensionnés du roi. C'est-à-dire, ce sont d'anciens militaires qui sont retraités. Et alors, et c'est plus intéressant, l'énumération des corporations et corps de métier extrêmement nombreux à cette époque, chacune ou chacun de ces corps de métier, il y a un seul représentant. On trouve dans les métiers de l'alimentation les meuniers, hein, les boulangers et faiseurs de biscuits, les bouchers et charcutiers, et puis aubergistes, cabaretiers et cuisiniers. Pour les métiers du textile et de l'habillement, on trouve le corps des chapeliers, puis des cordonniers, puis des peigneurs de laine et de soie, et vous vous rappelez qu'on avait introduit l'industrie de la soie à Saint-Antonin, puis les tailleurs, ensuite ensemble les tisserands, sergers et espardilleurs, enfin les teinturiers, et puis les perruquiers. Voilà les métiers à Saint-Antonin pour le textile et l'habillement. Vous avez pu observer que c'est à peu près ce que nous trouvions au XVIIe siècle, sans grand changement sur cette histoire de soie. Enfin les métiers du cuivre et du fer, les chaudronniers, les couteliers, fondeurs, ferblantiers et vitriers. Ils ne forment qu'encore tout cela. Alors, on peut s'étonner, ferblantiers et vitriers, je vous demande un peu. C'est que les ferblantiers étaient chargés de fabriquer les lanternes. Or, une lanterne a des vitres. Et alors, tout ferblantier était vitrier. Ensuite, un autre corps de métier, les serruriers, forgerons et maréchaux ferrants, ensemble. Enfin, pour les métiers de la construction, nous trouvions ensemble, les charpentiers, menuisiers, charrons, chabotiers et scieurs de long, ça c'est le bois. Maçons, plâtriers et tailleurs de pierre et tuiliers, ça c'est la pierre ou la brique. Enfin, parmi les autres artisans, il y a les tanneurs qui sont associés, ça c'est bizarre, avec les presseurs d'huile, les papetiers et les cartonniers. Enfin, il y a le corps des ouvriers du cuir ouvray, les bâtiers, selliers, brôliers et huissiers. Mais en plus de tout cela, on a assuré la représentation des gens de la campagne en faisant désigner des délégués pour les travailleurs de la terre. Ceux qui, à Saint-Antonin, sont travailleurs de la terre, c'est-à-dire laboureurs, ménagers, vignerons et jardiniers, ils auront un représentant. Plus alors, chacune des paroisses de la communauté aura deux représentants, sauf celle de Servanac qui en aura trois. Et ainsi, on trouvera des laboureurs représentant la paroisse de Sainte-Sabine, d'Aliguières, de Servanac, j'ai dit 3, Montpalage 2, Lamandine 2. Au total donc, 46 représentants, et à noter que les brassiers et les journaliers ne sont jamais nommés dans toute cette énumération.
Oui, les brassiers et les journaliers ne sont donc pas représentés. Oui. Est-ce que ce n'est pas choquant pour les bourgeois qui cherchent plus de justice dans leur mouvement? Et puis, est-ce que les brassiers et les journaliers acceptent cet état de choses?
Oui. Souvent, ceux qui parlent de justice, ils la réclament parce qu'ils regardent vers le haut et ils ne regardent jamais vers le bas. Tout au long du XVIIIe siècle, la bourgeoisie a réclamé l'égalité, la justice, non pas pour les pauvres diables, mais pour elle. Elle voulait bénéficier des mêmes avantages que la noblesse et que le haut clergé. C'est-à-dire, elle ne voulait plus qu'il y ait, par rapport à elle, d'ordre privilégié. Le peuple, elle ne le voit pas. Sans doute beaucoup moins que les nobles campagnards qui, eux, vivaient au milieu du peuple. Alors le peuple, vous dites, comment accepte-t-il ça? Ben, le peuple, il a l'habitude de courber le dos, hein, et il acceptera encore longtemps jusqu'à ce que des difficultés graves le poussent à des excès que les bonnes gens d'aujourd'hui trouvent scandaleux. Mais le peuple en général se tait. L'Assemblée ainsi composée s'occupe en premier lieu de l'élection à la pluralité des voix, nous dit-on, de 6 commissaires chargés de rédiger le cahier de doléances, plaintes et remontrances. Et qui est élu? Voici les 6 commissaires. 1. Guillaume Lacombe, maire, il est médecin. Joseph Perret, lieutenant de maire, il est avocat. Jean-François Boll, juge royal, il est avocat. François Pomiès, procureur du roi, il est avocat. Jean-François Berry, il est avocat. Tous, à l'exception d'un seul, sont des avocats. Ils vont, nous dit-on, vaquer pendant 6 heures à la rédaction de ce fameux cahier de doléances dont nous possédons un exemplaire. Le choix même de ces commissaires ne laisse pas de doute sur le contenu du cahier qui, ici comme ailleurs, on le sait, n'est-ce pas, tout le monde le sait, n'exprimera les plaintes et remontrances que de la catégorie la plus favorisée du tiers-État, mais non celle de l'immense foule des travailleurs, incapables d'ailleurs, tant et grand de leur détresse, d'analyser les causes de leur misère et de proposer des remèdes. Aussi, notre cahier de doléances, comme tant d'autres, manque d'originalité et semble avoir repris un modèle déjà en circulation et connu de toute cette élite intellectuelle que l'on retrouvera bientôt à l'Assemblée constituante. Ce cahier ne compte que 10 pages et le texte en est réparti en 47 articles regroupés en 3 chapitres intitulés 1. Administration générale du royaume, 2. Réforme dans l'administration de la justice, 3. Réforme dans le clergé. Vous voyez qu'on n'est pas question du peuple. Et les réformes proposées pourraient avoir été proposées par toute autre communauté que la nôtre. Ça conviendrait aussi bien peut-être à Caylus qu'à Saint-Antonin. Elles ne font que reprendre, je l'ai déjà dit, des propositions plus générales, depuis longtemps émises dans le pays, et qui feront l'objet des réformes décidées par l'Assemblée constituante, comme par exemple le vote par tête et non par ordre aux États généraux.
Oui, alors là, je ne comprends pas, M. Julien, qu'est-ce que ça peut apporter comme modification, ce changement de vote?
Une modification fondamentale, parce que si on vote par ordre, par exemple pour la suppression des privilèges des nobles, eh bien, il est sûr qu'il y aura 2 voix contre et 1 pour. Le tiers-État est pour, mais les 2 autres ordres sont contre. Par conséquent, le tiers-État sera en minorité. Tandis que, comme le tiers-État a une représentation en député double de celle de la noblesse, ou plutôt égale à celle de la noblesse et du clergé réunis, eh bien, on est à peu près sûr, au moins, que sur un projet important, il y aura moitié-moitié. Et comme on pense que des représentants du clergé, qui ne sont quand même pas tous des privilégiés, voteront avec le tiers-État, des réformes favorables au tiers-État pourront passer de cette façon. C'est très important. Et depuis des années, on parle de ça. Vote par ordre ou vote par tête. Ça fera l'objet d'ailleurs des premières journées révolutionnaires, selon le débat. Cette exigence, oui, du tiers-État, déclenchera la fameuse journée du 27 juin 1789, venant après celle du 20 juillet 1789, que tout le monde connaît, j'espère du moins, et qu'on appelle le serment du jeu de paume. Cette séance du 27 juin 1789, au cours de laquelle le roi accepte le vote par tête et la réunion des trois ordres dans une même assemblée, marque la première atteinte au pouvoir royal, contrairement à ce que pense le maire Lacombe, qui, parlant de cette journée, dira plus tard « L'heureux événement de la réunion des trois ordres de l'Assemblée nationale qui fut effectuée le 27 du mois de juin dernier, et alors par les soins et les exhortations du meilleur et du plus chéri des rois, nous avait tous comblés de la plus vive joie. » Notons en passant le respect, l'admiration que l'on a pour le roi. Mais ça, c'est pas seulement Lacombe. La personne du roi était presque sacrée, on peut dire, pour la grande, grande majorité des Français. Cette parenthèse fermée, nous ne trouvons nulle part dans notre cahier de doléances la moindre critique contre l'organisation politique, contre l'absolutisme, parce que ce serait porter atteinte à la personne du roi. On n'y touche pas. On relève les abus et les contraventions aux coutumes écrites de notre ville. On souhaite que soient établis des états provinciaux en Haute-Guyenne à l'exemple du Dauphiné. On se plaint évidemment des impôts excessifs et mal répartis. On demande la suppression des corporations qui, dit-on, étouffent les talents. La suppression des droits sur les cuirs, les papiers, les cartons, le fer et les ouvrages d'orfèvrerie, ainsi que l'abolition de la gabelle, de la corvée. On demande que le tiers-État soit admis à tous les emplois civils et militaires. Et voilà la revendication de la bourgeoisie. Pouvoir être capitaine dans l'armée, pouvoir, civils et militaires. Et l'abolition de cette maxime établie dans la Guyenne par l'ordonnance de 1629, nulle terre sans seigneur. Parce que ça, c'est insupportable aux Saint-Antoninois. Ils n'ont pas eu de seigneur pendant des siècles. Et puis voilà que tout à coup, en 1771, par le système de l'aliénation du domaine royal, on leur donne un seigneur, le comte de Montricou, ou plutôt le comte de Malartic, seigneur de Montricou. Mais de toute façon, on ne voit là que des choses très banales, très générales, rien de très original, sinon peut-être dans le chapitre qui concerne le clergé, avec ses articles, l'article 38, diminuer le revenu du haut clergé, l'article 40, supprimer les abbayes, ça veut dire que ces notables Saint-Antoninois, qui sont des gens bien, demandent la suppression du chapitre Saint-Antonin, de l'abbaye de Beaulieu, etc., sans doute parce qu'elles ramassent trop d'argent à leurs yeux. Augmenter, par contre, la portion congrue des curés et des vicaires. Séculariser les chanoines de Saint-Antonin. Et on leur en veut aux chanoines depuis longtemps, Saint-Antonin. Réformer les moines et les religieux. Et reculer les missions de leurs vœux et ceux des religieuses jusqu'à l'âge de 25 ans. Et tous ces propos, vous le voyez, traduisent une opinion peu favorable aux ordres religieux nombreux à Saint-Antonin à cette époque-là et qui n'avaient apparemment pas la sympathie même des notables catholiques. Ce cahier est donc rapporté 6 heures après. Il semble qu'il n'ait été ni lu ni soumis à l'appréciation des représentants de l'Assemblée. On leur demande à ces représentants de procéder alors au choix des députés qu'ils sont tenus d'envoyer à Villefranche, à l'Assemblée provinciale, qui procédera, elle, à l'élection de ces députés à l'Assemblée nationale. Alors, le texte nous lit très sérieusement. Après avoir mûrement délibéré, voyez là les représentants, la main au front, le sourcil froncé, mûrement délibéré, et les voix ayant été par nous recueillies en la manière accoutumée, mais on précise pas laquelle, a-t-on voté à main levée? A-t-on voté au scrutin secret? Je pense qu'on a fait lever la main. La pluralité, dit-on, des suffrages s'est réunie en faveur, on ne dit pas quand même l'unanimité, hein, mais enfin la majorité des suffrages s'est réunie en faveur des dix sieurs, devinez qui? Eh bien, Lacombe, Perret, Pomiès, Saby, Bromé, Berry, à peu près les mêmes que précédemment. Le cahier de doléances est alors solennellement remis aux dix sieurs délégués afin de le porter, nous dit-on, à l'assemblée qui se tiendra le 16 du courant à Villefranche, donc le 16 mars 1789, avec pouvoir donné de représenter le tiers état de cette ville en la dite assemblée. Le procès-verbal de cette réunion est suivi de 48 signatures, y compris celles des officiers municipaux, soit 7 personnes. Ainsi, on en déduit que sur 46 délégués des corps de métier, 41 ont effectivement participé et 41 savaient donc signer. Nos six commissaires députés vont préparer leurs nécessaires de voyage. Ils partiront le 15 pour Villefranche, à cheval, en suivant le vieux chemin par la côte rhodanaise, récemment réparé. On vient d'ouvrir, en effet, depuis peu, ce tronçon rectiligne, tout droit, qui va du Clos de Mérigotte à la falaise de Saint-Bernard. Puis ils passeront à Espinasse, à Parisot, et là, ils prendront la grande route royale jusqu'à Villefranche, où, dès le lendemain, ils participent à l'Assemblée des députés du tiers-état de la Sénéchaussée de Villefranche. Les divers cahiers des communautés sont alors fondus en un cahier unique de la Sénéchaussée, après quoi seront élus les députés aux États généraux, dont la première réunion est prévue pour le 5 mai. Aucun des nôtres n'aura l'honneur d'être élu. Ces députés à l'Assemblée nationale n'ont laissé aucun souvenir dans l'histoire, ni dans nos mémoires, et ne se sont distingués à rien. Seul leur nom nous est parvenu, grâce aux archives. Ils étaient 4 députés du tiers-état pour la Sénéchaussée de Villefranche, et ils avaient nom. Endurant, avocat de Villefranche, Perrin, avocat de Viviers, Magnaval, avocat de Lannuéjouls, Lambel, avocat de Mur de Barès, tous 4 avocats. N'est-ce pas significatif? Avaient été élus à part les députés de la noblesse et ceux du clergé, élection à laquelle avait participé pour Saint-Antonin le comte de Lastic en particulier.
il y aura 2 députés pour chacun de ces ordres dans la sénéchaussée de Villefranche. Au total, la province de Rouergue, en y comprenant, qui comprenait, pardon, des sénéchaussées de Villefranche et de Rodez, enverra 12 députés parmi les 1100 qui formeront les États généraux de 1789.
Ce sont donc des avocats qui représentent le tiers état.
À peu près uniquement.
Et pourtant, lors des élections, les artisans sont plus nombreux que les professions libérales.
Oui.
Comment se fait-il que ce sont les professions libérales qui sont élues ?
Profession libérale, c'est-à-dire, on voit bien, avocats, hein, des gens qui savent bien parler, hein, qui savent bien discuter, qui savent tenir un procès, et en qui on fait confiance, auquel on fait confiance naturellement. Et puis, il y a cette attitude permanente du bas peuple, des gens simples, des travailleurs, qui se croient incapables de diriger les affaires de la commune ou de l'État, et qui délèguent leur pouvoir hier, comme aujourd'hui, à des notables. Dans nos 6 délégués, quand ils reviennent à Saint-Antonin, j'espère que c'était tout.
Oui, mais non. Ce sont donc des classes aisées, finalement, qui ont fait la révolution de 1789.
Ah oui, oui, oui.
Pourquoi alors, 2 siècles après, on a l'impression que c'est le petit peuple français qui a fait la révolution ?
Non, mais ça, c'est par un abus de certains historiens, d'abord, qui ne veulent voir dans la révolution que les côtés mauvais et violents qu'elle a pu connaître. Et puis, on aime bien se faire peur après coup, a posteriori. Mais tout homme sérieux, toute personne qui connaît un peu l'histoire, sait que la révolution de 1789 a été faite par des gens de la bonne société. Et les événements malheureux qui ont pu se produire sont dus pour la plupart du temps, dans la plupart des cas, à un mouvement de colère du bas peuple que l'on vraiment méprise trop et que l'on oublie. C'est cela qu'il faut voir. Nos 6 délégués, leur tâche accomplie, sont revenus à Saint-Antonin. On s'occupe de résoudre les difficultés de la vie courante et des affaires de la communauté, sans qu'apparaisse jamais dans les textes la moindre mention des événements qui se déroulent à Paris et que marquent ces dates que l'on connaissait par cœur autrefois, 5 mai, 20 juin, 27 juin, 14 juillet. La révolution se fait ailleurs, semble-t-il. En tout cas, pas à Saint-Antonin, où l'on paraît vivre à part. Jusqu'à cette réunion du Conseil de ville du 6 août 1789 qui révèle l'énorme émotion qui a soulevé notre population pendant les journées des 31 juillet, 1er et 2 août 1789, émotion que les historiens ont appelée la grande peur.